Le thème de la table ronde que nous allons entamer, c'est comment rêver le jeu de rôle à présent. Alors à présent, ça veut dire aujourd'hui, mais ça veut dire aussi compte tenu de l'expérience que les acteurs de ce milieu-là ont pu accumuler et compte tenu de différents éléments d'actualité, de débat, etc. qu'on a tous plus ou moins présents à l'esprit. Ce que je voudrais dire avant de commencer, c'est que j'ai essayé de proposer des thèmes qui soient volontairement un petit peu dissidents, un petit peu provocateurs, qui fassent un vide qui soit particulièrement fertile et fructueux. Voilà. Alors, je vais présenter les intervenants. Donc, je remercie évidemment les organisateurs du colloque et puis Isabelle qui m'a proposé de co-animer. Donc, Isabelle Perrier. Il faut dire au passage qu'elle travaille pour Jeux de Rôle Magazine. Je pense que c'est important de dire qui fait quoi, parce qu'évidemment, on est tous plus ou moins partie prenante. Le groupe, que je connais depuis bien longtemps. Et j'ai eu l'occasion de tester certains de ces univers, des fois 10 ans avant que le grand public en entende parler, ce qui était un privilège. Sébastien Cellerin, qu'on ne présente plus, mais qui s'occupe, qui est une sorte de figure presque mythique du jeu de rôle, mais qui travaille actuellement pour Jeux de Rôle Mag, Les Douze Singes, si j'en oublie, tu me le dis.
Oui, Titan un peu, et puis d'autres qui sont pas directement dans le jeu de rôle, mais.
Et alors, on s'était pas encore rencontrés tous les trois, donc du coup, je ne sais pas qui est qui.
Ah, guess.
Vas-y. Voilà. Je sais pas, je vais tenter au hasard. Tu es Vivien.
Eh, perdu.
Et voilà, une chance sur deux. Alors, donc tu es Mathieu. Et ça. Mathieu.
Moi, je suis Mathieu Emery. Je suis pas vraiment. Ouais. Je suis pas exactement extrêmement impliqué dans l'édition de jeux de rôle.
Il y a un petit interrupteur à la base. Là, sur le côté.
C'est le jet-pot en dessous.
C'est comme un sabre laser, mais.
J'ai plus l'habitude du sabre laser. Donc, je suis moine traducteur pour le collectif PTG-PTB. On essaye de vous fournir un peu, de sélectionner ce qu'il y a de mieux sur le web, en particulier tout ce qui est de la forge, etc. On va sans doute traduire du synesthétique aussi un jour. Et on essaie de vous traduire tout ça le plus fidèlement possible et avec des traductions les plus exactes possibles, ce qui demande énormément de boulot, vous pouvez l'imaginer. Et à part ça, je fais pas grand-chose dans le jeu de rôle. C'est normal que vous ayez jamais entendu parler de moi.
Et donc
Vivien.
Oui, Vivien.
Vivien Féasson. Donc moi, je suis... je suis traducteur sur la gamme de l'Appel de Cthulhu pour Sans Détour. Je suis aussi donc auteur de jeux, donc j'ai écrit avec les éditions Icar Les Errants d'Ukiyo et écrit à titre indépendant Perdu sous la pluie. Donc j'interviens de temps en temps quand j'ai l'occasion avec plaisir sur le podcast de La Cellule, donc de Romaric Briand. J'ai ma section et je fais partie donc du collectif, on peut appeler ça un collectif des ateliers imaginaires, avec notamment Fabien Edvine ou Adrien Cahuzac qui sont là. Et à part ça, je suis aussi thésard en traduction. Voilà.
Alors, j'ai prévu quelques thèmes, mais peut-être qu'on pourra pas aller au bout, parce que peut-être que ce sera la bagarre générale avant. On va voir.
J'ai permis tout.
Le premier, ça consiste, ce que je disais là en introduction, le fait que dans le jeu de rôle, me semble-t-il, on est tendance à revenir souvent aux mêmes choses et des choses qui peut-être ne nous font plus autant rêver qu'avant. C'est ce que j'ai appelé l'éternel retour. Est-ce que rééditer sans arrêt les grands anciens, c'est pas un peu lassant?
On va poser la question à ceux qui le font et ils sont pas là aujourd'hui.
Alors, on prendra les questions, mais à la fin. Vous allez probablement bouillir, trépigner sur vos sièges. On prendra les questions, je le promets, mais à la fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes observateur?
Pour ce qui est de la réédition des grands anciens, j'ai pas trop d'avis, à part le fait que, effectivement, Bloodlust, c'était bien de le faire, mais c'était pas une réédition, c'était un remake. Donc, déjà, il y avait une petite différence d'approche.
Distinction.
Après, c'est vrai que moi, petit personnage, je suis assez fan des productions ESR, donc Old School Renaissance, que j'ai découvert il y a quelques années et qui m'a vraiment bien bluffé sur plein d'approches, comment faire du neuf avec du vieux, et puis surtout il y a plein de mécaniques qu'on a oubliées et qui en fait étaient déjà là dès le début et sont extrêmement modernes et ont été éliminées des corpus de règles parce que on a vu apparaître les compétences et puis les natures attitudes et puis plein de choses au fil des temps, et au final il y a plein d'éléments du corpus des corpus de règles initiaux qui ont été éliminés et qui mériteraient certainement qu'on les ramène. Après j'ai pensé à un autre truc et je sais plus quoi, mais ça va revenir.
Ouais, bah, je vais te répondre par une question, parce que je suis un peu jésuite sur les bords. À quoi ça sert qu'on réédite encore Hamlet aujourd'hui? Bah, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas encore eu l'occasion de le lire, pas encore eu l'occasion de le feuilleter. Et que, moi, bah, en tant que plus jeune joueur, je suis assez content de pouvoir retrouver Ars Magica, Pavillon Noir et des grands classiques. Je suis content de pas avoir, typiquement, s'ils pouvaient rééditer Ambre pour nous éviter d'avoir à débourser 150€ au marché noir pour arriver à le trouver, bah, ça pourrait être sympa aussi, ouais.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a, quelque part deux dimensions aussi là-dedans. Il y a l'aspect, on va dire, artistique ou œuvre ou n'importe ce qu'on met dedans. Donc, effectivement, pourquoi rééditer Hamlet? Bah, comme tu dis, hein, ça paraît pas aberrant. Heureusement, d'ailleurs, qu'on le réédite pour que les gens soient effectivement pas obligés de débourser des milliers d'euros pour les récupérer. Et d'un autre côté, il y a aussi une notion un petit peu qui va l'opposer de ça. C'est l'idée de progrès, comme si, quelque part qui va avec l'idée de produit aussi, de fournir le meilleur jeu de rôle possible. C'est pour ça qu'il y a apparemment des rééditions, par exemple de l'Appel de Cthulhu, qui sont jamais tout à fait les mêmes, ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on réédite pas, c'est comme si on disait, bon, Hamlet, c'était cool, mais quand même, il a abusé au niveau des adjectifs, c'était pas terrible, donc on va faire une V7 avec un Kickstarter, et on va enlever les adjectifs, parce que... Bah, voilà, donc il y a deux visions comme ça qui s'opposent. Je suis pas sûr qu'après... Enfin, moi, j'aurais du mal à dire qui a raison, qui a tort, et à quel niveau, parce que je pense pas que ce soit de toute façon des absolus, mais... voilà.
Oui, bah, je crois qu'il est bon temps de rééditer... Je parlais de grand ancien, mais finalement, c'est ce que dans d'autres genres littéraires, on dirait les classiques, finalement. Et on estime qu'il y a un corpus qu'il faudrait avoir lu ou qui devrait être disponible. Et le problème, c'est que comme bah, c'est pas non plus... Enfin voilà, on n'a pas l'éducation nationale à côté de nous pour dire à tous les enfants de 6e, vous devriez lire Donjons et Dragons. Et puis en 5e, vous devriez lire L'Appel de Cthulhu. Ça arrangerait les éditeurs, mais c'est pas le cas. Donc, du coup, c'est vrai que là, en ce moment, tu fais allusion, il y a une espèce de frénésie où finalement, c'est pas seulement qu'on réédite, c'est-à-dire que la réédition, elle est jumelée à des opérations de marketing opérationnel, de nouvelles formes de concevoir un plan média. J'imagine que si tu l'as inscrit à l'ordre du jour, c'est aussi parce que ça fait, de façon polémique, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des abus ou que de l'extérieur, ça paraît parfois excessif. Je crois que surtout que, c'est bien que ça ait lieu. C'est encore mieux si ça a enrichi l'œuvre, parce qu'effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de rôle dont le niveau soit celui d'Hamlet. Donc, ça peut être aussi pertinent de se poser la question des traductions, et puis j'espère qu'ils vont se la poser. Pour une V7, par exemple. Mais, je sais pas, en fait, si la question faut la poser, aux éditeurs, aux traducteurs, aux auteurs. En fait, je crois que c'est plutôt une question pour vous, quoi. Qu'est-ce qui fait que dans votre relation au jeu de rôle, quand c'est un marché, c'est-à-dire en fait que c'est des produits en boutique, vous allez plutôt aujourd'hui, c'est dans la réalité, objectif que les distributeurs nous donnent, plutôt acheter la réédition d'un classique que la proposition innovante, inédite d'un éditeur qui se bat pour la francophonie ou pour un catalogue inédit de créateurs. Et qu'est-ce qui fait après que pour comment inclure dans la discussion l'aspect un peu polémique, qu'est-ce qui fait que vous préférez le faire en donnant l'argent directement à l'éditeur, et y compris en considérant qu'il faut aussi donner une commission à une structure financière qui est basée dans peut-être dans un autre pays qu'un pays de la zone euro, donc finalement on pourra donner de l'argent à des gens qui dissimulent de l'argent dans des paradis offshore, plutôt que de sortir de chez vous, prendre le métro, le bus, la voiture, vous arrêter au parking, dire bonjour au monsieur qui tient une boutique, essayer d'en vivre. Enfin voilà, je pense que c'est plutôt une question pour vous en fait.
En tout cas, si je regarde la couverture de Jeux de Rôle Mag actuellement en kiosque, je vois l'appel de Cthulhu. Si je regarde Cassius Belli, le numéro en cours, je vois l'appel de Cthulhu.
En fait, nos amis Cassius Belli sont dans la salle, donc peut-être il faudra leur donner la parole à un moment donné, mais là, on n'est pas en train de parler d'un éditeur, en fait. C'est-à-dire que quand les entreprises qui possèdent ces titres font un magazine spécialisé ou une presse en kiosque, en fait, ils sont un acteur de la sphère économique et sociale. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ne se contentent pas de donner un éclairage sur la création ou sur l'édition. Non, ils sont un acteur du marché. C'est-à-dire qu'ils accompagnent, en fait, tous les autres acteurs du marché, c'est-à-dire les magasins, les éditeurs dans leur démarche commerciale. Donc, je pense que ce n'est pas à mettre au même niveau. On accompagne aussi une réalité.
C'était juste pour te titiller un peu. C'était un tir d'opportunité. Le deuxième thème que j'ai mis à l'ordre du jour, c'est la question de la dimension numérique. Les pratiques changent et avec l'apparition du numérique, on se retrouve à jouer avec des gens qu'on n'a parfois jamais rencontrés, qui sont parfois à l'autre bout du monde et qui se lèvent au milieu de la nuit pour participer à l'aventure. Ça casse quand même les habitudes qu'on avait de se retrouver autour d'une table et de socialiser d'une certaine manière. Est-ce que vous pensez que le futur des jeux, et du jeu de rôle en général, et des jeux, du développement des jeux en particulier, passe obligatoirement par cette dimension numérique? Ou est-ce que, au contraire, vous pensez que un retour à la convivialité à l'ancienne, ou maintenir en tout cas cet aspect-là est important. Est-ce que vous avez déjà participé à animer des parties à distance?
Alors, bon, moi je mène et je joue par Roll20 et Hangout depuis 3 ans maintenant. Donc une fois par semaine. J'ai eu l'occasion de faire des tests aussi de jeux par Hangout. J'en ferai sans doute beaucoup plus l'année prochaine. C'est pas différent d'une table de jeu normale en fait. Donc il n'y a pas d'opposition à donner, à part le fait qu'on ne peut pas se passer les chips d'un bout à l'autre de la table. C'est à peu près la même chose. Alors il y a des dimensions légèrement différentes. Il y a un plus grand respect de la parole nécessaire pour jouer en ligne. Il y a des temps de connexion qui sont éventuellement plus courts ou plus définis. C'est 21h, 23h, mais 23h on arrête et on se déconnecte et puis voilà, c'est comme ça. Il y a des éléments supplémentaires qui arrivent avec le chat, avec des chats écrits en même temps, etc. Il y a des éléments techniques supplémentaires, mais en réalité, moi j'ai 2 autres parties à la maison chaque semaine, plus celle-là, et il n'y a pas de vraie différence en nécessité de préparation, en nécessité de présence, ou voilà, c'est. Donc après, par contre, c'est les outils peut-être qui. Pour l'instant, notamment Roll20 ou des choses comme ça sont très orientés jeux tactiques, Pathfinder, compagnie, etc. Il y a moins d'outils pour un jeu plus ambiance. Comme c'est essentiellement des choses, enfin Roll20 est tenu par des Américains. C'est vrai qu'ils ont une grosse majorité de joueurs payants de MJ payants qui vont dans cette direction-là, donc c'est vrai que c'est plus orienté comme ça. Maintenant voilà, après ça va pas changer Par contre, c'est plus intéressant. Enfin, ça, je trouve que ça rejoint le phénomène de la traîne numérique, par exemple pour la musique ou etc. Où avant, bon, les majors étaient prescriptrices de ce qu'on doit écouter et ce qu'on peut pas écouter. Éventuellement, dans son bled, on pouvait avoir trois fans qu'on réunissait le samedi dans son garage. Et puis avec l'arrivée du numérique, tout d'un coup, on a trois fans dans son bled, mais trois fans dans le bled d'à côté, et puis un là-bas, et on finit par avoir suffisamment de fans pour pouvoir payer un album, etc. Et avec forcément une diminution, puisqu'on se retrouve avec une traîne très longue, avec une diminution des ventes sur les acteurs, sur les majors. Mais du coup, quelque part, ça permet ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, les joueurs qu'on pouvait pas trouver, avec lesquels on a envie de faire tel type de jeu ou tel type de jeu, et qu'on peut pas faire avec son groupe habituel, bah tout d'un coup, si ton groupe a pas envie de jouer à Cops parce que jouer des flics ça fait chier, et ben tout d'un coup on peut trouver deux ou trois personnes pour jouer à Cops ailleurs qui eux seront intéressés et qui pourtant habitent à Limoges, l'autre en Suède, le troisième voilà quoi.
Je peux juste te poser une question, comme tu as l'air d'être le plus technophile d'entre nous à ce niveau-là. Est-ce que, du coup, tu as recours plutôt à un PDF quand tu fais jouer à travers Roll20 et tout ça, ou est-ce que tu préfères finalement, malgré tout, utiliser un livre
En fait, comme je suis à mon bureau, je peux avoir mes bouquins, je peux avoir mes notes. J'ai d'autres outils que le PDF en fait pour partager, comme c'est beaucoup des jeux en test ou des jeux en développement, j'utilise beaucoup Evernote hein, qui me permet de copier depuis Word dans Evernote et de partager mes notes directement sur le web avec d'autres utilisateurs d'Evernote, d'organiser les notes aussi, donc d'y accéder plus rapidement. Mais là encore, en fait, c'est pas très différent de la partie sur table parce que sur la table, j'ai ma tablette sur laquelle j'ai Evernote avec mes règles aussi. Enfin, j'ai à chaque fois que j'ai besoin d'une référence ou un truc, je suis un clic de doigt et en avant quoi. Par contre, l'intérêt du PDF, c'est que du coup, si j'ai besoin, quand je produis un PDF, etc., je le mets à dispo, je le mets sur mon FTP, je le mets à dispo sur mes joueurs et ils y ont accès quoi. Ils ont accès aux listes de sorts, ils ont accès aux si j'ai besoin de faire un copier-coller de OK, tu reçois tel pouvoir ou tiens, t'as telle herbe de médecine qui a telle propriété, c'est sélectionné, copié dans le chat et puis lui il met ça dans sa feuille de notes qu'il a chez lui sur son ordinateur. Alors qu'autour de la table, soit je lui file le bouquin et il recopie, soit je lui dicte. Enfin, donc les rapports techniques sont légèrement différents, mais ce que tu gagnes d'un côté, tu vas le perdre sur d'autres éléments de finesse, notamment par exemple les postures physiques, les mimes, des choses comme ça. Et en réalité, mais tout finit par créer une moyenne en fait, qui fait que tu perds pas de qualité de jeu en fait.
Oui, moi j'ai pas eu pour l'instant l'expérience. Je pense que ça finira par venir. J'avoue que j'ai pas encore osé passer le pas. Mais c'est plus une question de manque d'habitude. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a une crainte liée à nos vieilles habitudes, mais finalement ça reste, c'est une autre forme de sociabilisation, mais ça reste une sociabilisation. On reste avec des vrais gens, on n'est pas avec des, on les voit en plus quelque part, on entend leur voix. Alors effectivement il y a une forme de mise à distance, mais je pense qu'il faut pas non plus trop s'accrocher parce que ça va permettre aussi peut-être au contraire de développer finalement des groupes qui se séparent par la force des choses. On est muté ailleurs, on trouve du boulot, enfin peu importe quoi, tout ce qui a causé beaucoup de problèmes, j'ai l'impression, à toute une génération de rôlistes, puis à une autre peut-être encore ensuite quand ils ont grandi et qu'ils ont fini par quitter l'université et voilà quoi.
Moi j'en ai fait un tout petit peu avec Rôlistique et alors ce que tu disais sur les interfaces, je pense que c'est vrai. En fait moi je suis extrêmement visuel et perdre la communication visuelle, parce qu'on n'avait pas de webcam ni quoi que ce soit, ça m'a beaucoup perturbé. Mais effectivement, il y avait d'autres trucs pratiques. Et quand j'ai regardé, j'ai regardé 5 minutes du jour du grenier, où on voit tous les personnages, je me suis dit que c'était peut-être ça le remède, en fait. Parce que, étant aussi grande joueuse de jeux vidéo, TeamSpeak et tout, enfin voilà, c'est habituel. Et effectivement, il y a un lien social terrible qui passe. Mais quand on est visuel, c'est un vrai problème en fait, parce qu'on se retrouve très vite à regarder son mur ou à regarder ce qu'il y a sur son bureau, et ça c'est le mur, parce que du coup on arrête d'écouter. Et bon, voilà, je pense que c'est un problème technique en fait, quand on arrivera à se voir en même temps.
Là avec Hangout, c'est qui est un système de conférence, j'imagine qu'il y en a d'autres, mais celui-là est quand même plutôt facile, facile d'accès. Moi, j'ai joué longtemps à Skype, par Skype, donc on avait juste le son. Ouais. Alors, du coup, ça nécessitait des séances relativement courtes, hein, rarement plus de 2 heures, parce que ça demande un énorme effort de concentration, mais étonnamment, on avait aussi une forme d'immersion dans l'histoire, dans le récit et dans les personnages, etc., qui était décuplée. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus court, mais comme on avait une vraie nécessité de concentration, ça emmenait à d'autres sens, au niveau tactile, au niveau des sensations, ça amenait à une autre forme d'immersion, quoi. Voilà. Après, je pense que effectivement, jouer avec l'image, c'est quand même ça lève une partie des ambiguïtés, ça lève une partie des problèmes de concentration, justement. On voit qui parle, comment on réagit, parce qu'il y a toujours le moment où le type se prépare à parler, le joueur se prépare à parler, donc on le voit et hop, on peut orienter son attention sur lui tout de suite, ou éventuellement avoir un mouvement d'œil qui est visible en fait à la caméra, suivant qui on regarde en bas d'écran. Donc il y a un confort supplémentaire, mais c'est vrai que, enfin, pour revenir un peu sur ce que tu disais sur le fait que au niveau logistique, il y a un gros avantage à jouer à distance, surtout quand on a très peu de temps et très peu de moyens. C'est que 3 minutes avant le début de la partie, on peut être à faire complètement autre chose. On peut ranger son linge, finir de débarrasser, coucher les enfants. On n'a pas besoin d'être physiquement présent ou d'accueillir les copains, de préparer la table, de ranger les dernières chaussettes sales pour les glisser sous le sofa pour que tout le monde soit là. On peut être vraiment, puis on peut jouer en calcif, c'est pas un souci, quoi. Ouais, parce qu'on est visé comme ça.
C'était un exemple. Hein.
Ouais, c'est pas roulette chat. Mais du coup, au moment où on arrête tout de suite. Alors, ça arrive, en fait, moi, ça m'arrive assez régulièrement de rester discuter avec des joueurs après la partie. Quasiment tout le monde se déconnecte, puis il y en a qui me dit, tiens, j'ai 3 questions, et puis on reste à discuter pendant une demi-heure derrière. Donc du coup, tu vois, on rejoint la quand même, il reste une sociabilité, un partage et une convivialité quand même, quoi. Mais par contre, le jour où on se déconnecte, ok, salut les gars, la semaine prochaine, et puis 2 minutes après, on peut retourner au boulot, on peut retourner faire ses trucs. Ça peut être, ça élimine aussi la nécessité de sortir de chez soi, de perdre une demi-heure dans les transports en commun pour aller au club, etc. Ce qui est pas rien, parce que moi, sur mes 2 autres parties dans la semaine, mes joueurs viennent souvent de 30 bornes à distance. Enfin, ils ont une grosse demi-heure de route aller, une grosse demi-heure de route retour. Ça se comptabilise dans le temps de partie, en réalité. Pour eux, en tout cas. Et moi, quand je me déplace, ça se comptabilise aussi, quoi.
Très rapidement, je vais faire le vieux con nostalgique, du coup. Moi, ma meilleure partie, ça reste du Cthulhu dans un local sordide avec une vieille une chandelle pour toute lumière et un vieux balai qui essayait de coincer la porte, qui essayait de retenir la nuit d'orage qu'il y avait dehors. Ça, c'est vrai que c'est un tout petit peu dommage de le perdre. Après, je suis absolument persuadé qu'on va gagner énormément de choses de l'autre côté, notamment en termes de réactivité, en termes de concentration, en termes de possibilité de jeu, c'est super intéressant. Mais bon, il y a quand même ce truc-là qu'on perd. Les fraises Tagada peuvent jouer un rôle essentiel dans la partie. Surtout quand on joue des bisounours.
Juste pour dire, en fait, je suis pas d'accord avec l'idée qu'on perde, parce que c'est, en fait, on ajoute une possibilité. Ça veut pas dire que c'est une obligation. Sauf après, bon, si les gens ont plus envie de sortir de chez eux, qui restent devant leur écran, c'est un problème. Mais je veux dire, c'est aussi leur responsabilité. Et je pense que malgré tout, on a quand même du plaisir à voir les gens. Et je pense pas que ça remplace ça. Je pense que c'est juste que si des fois on n'a pas l'occasion, on n'a pas la possibilité, ou on a envie de voir des amis qui sont loin et qui peuvent pas, ou comme on a des enfants, effectivement, ça peut être, moi je me pose la question en ce moment, effectivement c'est une vraie problématique qui arrive, voilà, c'est, je pense que c'est plus, faut plus voir ça comme un ajout de possibilité que comme un remplacement, quoi, en fait. Sauf bon, après je peux me tromper, peut-être qu'un jour on commencera à me dire non, j'ai pas envie de me déplacer, fais ça par chat, et, bon, ça sera un peu triste, mais voilà, faut voir ça comme un plus.
Comme le temps tourne, je vais enchaîner sur le thème suivant. Alors, ce magazine, le magazine Dissident, le 12 actuellement, a été réalisé pour son numéro 1 par financement participatif. À l'époque, nous n'avions pas mangé de vers de terre. Le thème suivant, c'est, à votre avis, est-ce que trop de financement participatif tue le financement participatif? Donc, voilà. Et par ailleurs, qu'en dit votre carte bleue?
Moi, j'ai plutôt envie de me positionner par rapport à, au type de financement participatif. Quoi. C'est, j'avoue que, à titre personnel, je suis pas fan de la surenchère que ça induit. Je suis pas fan de l'idée que, voilà, on est en fait dans la démonstration, on est en plus de suppléments gratuits, plus de choses, on est dans la surenchère des offres, surenchère des images aussi. Moi qui suis pas dessinateur, hélas, et qui veux écrire des jeux, et qui considère que finalement l'essence du jeu serait quand même ce que j'écris, je vois la part prépondérante que tient l'illustration là-dedans, au détriment quelque part du contenu du jeu lui-même souvent, des mécaniques, etc. Moi je m'inquiète un petit peu de ça, et après, après il y a la question des boutiques aussi, mais là j'avoue que je suis pas super versé là-dedans, et effectivement, quelque part, à titre personnel, je regrette un peu l'effacement des boutiques au fur et à mesure du paysage, mais j'ai l'impression que cet effacement avait déjà un petit peu commencé avant l'apparition des Kickstarter, donc ça se discute.
Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Moi, le seul risque que je pourrais voir, c'est qu'effectivement, les grosses campagnes de financement qu'on voit pour des trucs où, au final, peut-être que je me trompe, parce que foncièrement, j'y connais rien à l'industrie du jeu de rôle, et mes camarades me corrigeront, mais j'ai pas l'impression que sur des jeux comme Pavillon Noir ou INES MV5, il y avait un réel risque éditorial. Pour moi, le but du Kickstarter, c'était vraiment de donner à des types qui font ça un peu dans leur cave et qui ont vraiment pas les moyens de financer le jeu, pouvoir se lancer. Ce serait vraiment dommage de perdre ce côté-là, justement le côté auteur indépendant qui pourrait se lancer. Après, l'avenir dira si mes craintes étaient fondées ou pas. J'espère qu'on continuera à garder les deux des meilleurs mondes. Et pour les boutiques, je suis comme mon camarade, j'ai pas spécialement d'idée. J'essaye d'aller en boutique par acte militant, mais j'en sais rien, quoi.
Alors, comme je disais tout à l'heure, on prendra toutes les questions à la fin, on s'arrête suffisamment à temps pour permettre une bonne dizaine de questions. Promis.
Oui, enfin, le risque, déjà, enfin, ce sera pas le même risque selon où on est dans le paysage. Est-ce qu'il y a quelque chose de fatal? Non, je crois pas. Non, mais pour vous donner brièvement un peu des idées pour que vous compreniez les enjeux, c'est vrai que d'une manière générale, dans le marché du jeu, c'est pas seulement le jeu de rôle, en fait, hein, c'est les points de vente qui sont amenés à proposer le jeu de rôle, elles sont confrontées à une offre pléthorique, quel que soit le type de jeu, le segment au sein des types de jeux, et elles sont confrontées à une difficulté qui est de proposer donc aux gens qui leur rendent visite les jeux tout le temps. Donc ça leur demande de faire des choix, et c'est vrai que il y a quelques années, ils sortaient péniblement un jeu par mois, et puis elles y arrivaient. Aujourd'hui, les sorties, c'est plutôt combien y en a-t-il par semaine. On est pas loin de la, pour le secteur du jeu, hein, vraiment, on n'est pas loin de ce que connaît la bande dessinée, même si c'est moins florissant que la bande dessinée pour tout un tas de raisons. Donc je pense que j'ai beaucoup d'éditeurs qui le ressentent en se disant tiens, c'est marrant, les placements sur la nouveauté baissent, donc comme la vie d'un éditeur elle est liée au fait d'atteindre ce qu'on appelle le point mort, c'est-à-dire le nombre d'exemplaires qu'il faut vendre pour récupérer l'argent investi sur tous les postes de dépenses. C'est vrai qu'il y a cette tentation, même quand on est installé sur la place du marché et que tout le monde nous connaît et que ça se passe plutôt bien, non pas forcément pour gagner beaucoup d'argent, mais juste pour faire en sorte que la trésorerie se renouvelle, pas par question de profit ou d'appétit du gain, mais juste pour permettre à un autre projet, d'un autre auteur, avec d'autres créatifs, de voir le jour, en fait, et de pouvoir faire le lien entre ces deux projets pour aussi vivre de son travail, tout simplement. Après, quand il y a effectivement des escalades, j'ai envie de dire, tant mieux pour ceux qui participent, enfin, a priori, c'est l'idée, mais c'est vrai que ce qui est un peu préoccupant, c'est quand on entend dans le même temps... des boutiques dire oui mais on voit plus personne, on était l'endroit où les gens se rencontraient, ils se donnaient rendez-vous chez nous, et c'était même pas une question de ils donnent rendez-vous chez nous, vous nous achetez quelque chose, on était déjà content de les voir, ça faisait du passage. Et puis il y a aussi une vertu économique, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une rue commerçante et qu'il y a des gens derrière la vitrine, même si ces gens n'achètent rien parce qu'ils sont donnés rendez-vous, ceux qui continuent de passer devant ont l'impression que c'est l'endroit où il faut aller, et peut-être que c'est ceux-là qui vont consommer. Donc c'est plutôt une dynamique générale, en fait, il y a plutôt un risque là-dessus, en fait. mais je crois pas que ça soit propre au jeu, ni propre au financement participatif, ni au financement participatif du jeu. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est plutôt un phénomène de nous en tant que citoyens et consommateurs. Qu'est-ce qui fait qu'on fait ça? C'est plutôt ça la question. Et je pense que s'il y a un risque, elle est plutôt sur les comportements, sur parce que c'est pas tant nos produits, nos jeux, nos univers, notre pratique qui, à mon avis, est menacée s'il y a une menace. C'est plutôt de se demander de quelle ville nous allons accoucher si demain nous ne sommes plus dans les rues et que nous ne nous rendons plus dans des lieux publics. En fait, c'est plutôt ça pour moi la question.
Il y a, alors moi j'ai quasiment une triple casquette en tant que client, producteur et éditeur en partie sur sur la question des financements participatifs. Je pense que le problème de le financement participatif, c'est quelque chose qui est apparu il n'y a pas très très longtemps, mais qui existait déjà avant que ça existe. C'est-à-dire que il y a quelques années de ça, j'ai fait une rançon. C'était avant que Oulélé ou Kickstarter arrivent. Et à l'époque, je ne sais plus quelle plateforme on avait utilisée, mais c'était déjà grosso modo une plateforme de partie, enfin un peu équivalente. Et dans l'absolu, le fonctionnement était presque le même, sauf que le contrat était que si je touche tant de thunes, je produis un jeu et le jeu, je le mets à disposition gratuite de tout le monde. C'était le principe des rançons à l'époque. Il y avait Cédric Ferrand qui avait fait ça juste avant. Je crois qu'après moi, on n'a pas été nombreux. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de monde parce que j'ai pris tellement de retard que ça a tué un peu le principe en fait. Mais ouais, et donc en fait, l'expérience justement de ce retard très long, ce qui m'a fallu un an et demi pour sortir le jeu, qui n'était pas un retard dû à un manque de boulot ou parce que mon chien avait mangé ma copie ou parce que, comme on a des fois des retours, des excuses un peu bidons sur aujourd'hui, c'était que pendant 18 mois, j'ai dû écrire 4 ou 5 fois le jeu en virant mes versions et en réécrivant tout à zéro, quoi. Parce que ça convenait pas, c'était pas bien écrit, c'était pas... Enfin, bref. Mais du coup, c'est vrai que bon, l'expérience m'a un peu échaudé par rapport... Enfin, à titre d'auteur, ça m'a un peu échaudé par rapport au financement participatif. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plutôt dans une dynamique de sortir le jeu et puis on essaie de le vendre. Mais cette problématique-là, là, elle rejoint une problématique d'éditeur, c'est que... Bah, on parlait des boutiques, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres de placement, les chiffres de vente, etc., on se rend compte que, en réalité, il y a beaucoup de boutiques qui ne présentent plus ou presque plus de jeux de rôle, ou n'en achètent plus, et que l'essentiel des ventes se concentre dans 4-5 boutiques parisiennes, 3-4 boutiques en province, et puis des boutiques sur le net, et puis on a fait le tour, quoi. C'est-à-dire que toutes les petites boutiques qui, ici ou là, dans les petites villes, petite moyenne ville, prenez des jeux de rôle régulièrement, ne le font plus, ou ont fermé, ou ne prennent plus que du jeu de plateau. Je prends l'exemple, à côté de chez moi, à Alençon, il y a une grosse boutique de jeux en centre-ville, enfin, jeux en bois et tout, et qu'on ouvert une grosse section jeux de plateau, enfin, ils ont vraiment du matériel, et il y a 2 exemplaires de Pathfinder. Voilà. C'est le seul jeu de rôle qu'ils vendent. Et je pense que c'est plus par... parce qu'on leur a demandé, je sais pas en fait, ou parce que ils ont, ça faisait partie du pack avec les jeux de plateau Pathfinder qu'ils vendent aussi, quoi. Donc du coup, les gens d'Alençon, il faut qu'ils fassent au moins 60 km pour aller acheter des jeux de rôle, voire un peu plus même, alors qu'il y a un club super actif sur place, quoi. Enfin, je veux dire, des gens qui se rencontrent toutes les semaines et tout.
Alors, est-ce que, à contrario, ça pourrait pas participer d'une ouverture au grand public par le succès de certains financements participatifs qui dépassent le premier, le deuxième cercle des rôlistes pour passer dans les grands médias, faire un peu le buzz, faire quelques...
Alors, après, moi, je sais pas pour ça parce que, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce que moi j'ai l'impression de constater, hein, après je suis pas forcément non plus super aware de tous ces trucs-là, parce que c'est les gros financements participatifs, je les suis pas. ma carte bleue chauffe de temps en temps, mais pour des petites choses. Genre des battle maps en bug de, pour sous bug de bière, ça c'est très très pratique. Mais c'est pas cher et puis ça arrive tout de suite quoi. 15 jours après la fin du Kickstarter, c'est dans la boîte aux lettres quoi. Donc et c'est plus des aides à des créateurs d'aller au bout d'un projet que de toute façon ils vont faire, mais qui est déjà bien abouti, mais qui pour lequel ils ont besoin d'un peu d'aisance financière pour obtenir des prix corrects et qui participent à tout le monde. Après, il y a plusieurs exemples de petits financements. Enfin, je pense au dernier que j'ai soutenu comme Planète Hurlante, qui sont bien menés et qui proposent pas des choses délirantes non plus, mais c'est pas cher et puis on sait que ce sera de toute façon disponible que là, puisqu'il y aura pas d'impression, même pas d'impression en demande en dehors du Kickstarter. Donc après, moi j'ai l'impression, donc pour les gros Kickstarter, c'est que fondamentalement ils touchent que la communauté, c'est-à-dire que j'ai pas vu dans d'autres médias
Alors en termes de communication, ils vont au-delà de la communauté Rollis, puisque on a pu retrouver sur certains financements récents des articles même dans la presse généraliste. Ça peut permettre peut-être hein, d'accrocher un peu l'attention, mais évidemment ça reste juste en termes de l'image, de communication.
Est-ce que c'est pas juste le reflet de ce qu'on vit ici aujourd'hui, c'est-à-dire que tout d'un coup le jeu de rôle se retrouve à l'université, que tout d'un coup il y a des fois des demandes institutionnelles auprès d'auteurs rôlistes pour faire ceci ou cela, etc. Qu'il y ait toute une génération de gens qui jouent depuis 15, 20 ans, 30 ans, qui sont arrivés maintenant à des postes à responsabilité ou à des postes un peu décisionnels, et qui, parce qu'ils continuent à jouer, parce qu'ils sont dans le milieu, parce que plein de choses, en profitent pour légitimer la pratique, et y compris dans les grands médias. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que dans les années 90, les rédacs chefs n'avaient jamais joué et connaissaient pas les jeux de rôle. Donc, voilà. Et qu'aujourd'hui, un rédac chef, ou même un chef de rubrique, peut-être avoir 40-50 balais et à jouer dans les années 80, et même peut-être après. Enfin, c'est peut-être lié à ça, quoi. Mais il y a aussi un truc, pour finir sur le positionnement en tant qu'éditeur aussi, c'est que bon, il y a le problème des boutiques qui peut éventuellement pousser à faire des Kickstarter, mais en réalité il y a plein d'autres solutions qui sont tout à fait, enfin, qu'on peut explorer et qui sont pas de l'ordre du Kickstarter. Il y a Lulu, il y a faire des boutiques en ligne comme faisait la boîte à eux à un moment donné. Il y a plein de solutions pratiques qui ne sont pas liés au financement participatif et qui peuvent amener les mêmes, enfin vider les boutiques et quand même remplir les poches des éditeurs et des auteurs derrière, en tout cas des éditeurs.
Je vois, il n'y a pas que des éditeurs qui se lancent dans le financement participatif. Non, mais après, pour revenir sur la question initiale qui vaut même qu'on en détaille, je pense que pour vivre le jeu de rôle au présent sur la relation à l'achat, en fait, je pense qu'il faut s'intéresser à la création, quoi, c'est-à-dire à leurs jeux, à ce qu'on publie, et vraiment s'y intéresser, c'est-à-dire venir les rencontrer, leur poser des questions. Tout le monde est aujourd'hui assez accessible, et je pense que faites-vous une opinion, quoi, sortez de vos habitudes de jeu, en fait, c'est aller regarder une génération d'auteurs qui existe et qui propose des choses innovantes. Alors pas toujours aussi innovantes que certains jeux conceptuels qui vont faire des bons en avant sur vraiment ce qu'est la pratique du jeu de rôle, parce qu'ils vont défricher de nouveaux territoires, et c'est important. Mais dans tout secteur, il y a toujours des gens qui défrichent, il y a toujours des challengers, il y a toujours des gens qui sont plutôt dans le côté de la R&D. Voilà, il y a des gens qui font aujourd'hui en création des campagnes sur des thèmes qui peuvent vous paraître éculés. Si un éditeur les publie, qui pense que c'est pertinent, c'est pas seulement parce qu'il se dit « Heroic Fantasy, ça marche, j'ai regardé les stats sur le Breuil, ça va le faire ». En avant tout, quoi. Non, c'est aussi parce qu'il pense que ça va être sympa, on va bien s'amuser, quoi. Et qu'il y a une histoire qui ma foi, est originale. Donc, intéressez-vous-y, c'est sans doute... Enfin, c'est ça l'avenir, quoi.
Ça me fait une excellente transition pour le thème suivant. que j'ai intitulé « Territoires inexplorés ». Effectivement, on a vu une présentation du travail du GROC tout à l'heure, et c'est assez impressionnant de voir le nombre de jeux qui existent, le nombre de catégories qui sont bien remplies, etc. Et ce que je voulais vous demander, c'est si, à votre avis, il reste encore des thèmes ou des époques à traiter, des choses qui pourraient paraître un peu nouvelles, un peu fraîches, qu'on n'aurait pas déjà vues partout. Est-ce que vous avez... peut-être que tout le monde ici a peut-être son idée sur le créneau qui resterait à prendre, le jeu qu'il faudrait faire. Est-ce que vous voyez des choses qui sont moins traitées que d'autres?
Bah, moi, le premier thème qui me vient à l'esprit, c'est tout ce qui touche à l'intimité, aux relations amoureuses, tout ce domaine-là qui est relativement peu traité dans le domaine du jeu de rôle, parce que considéré, alors pas forcément à tort, parce que c'est vrai que c'est difficile, parce que ça relève du dévoilement devant d'autres personnes, on a un certain aspect pudique. Il y a des jeux pas encore sortis qui peuvent s'y essayer, il y a des jeux déjà sortis comme Breaking the Ice d'Emily Kerbos qui s'y essaye justement en décrivant des rendez-vous. Il y a Frédéric Saintès qui sortira, j'espère, un jour Les Cordes Sensibles, mais qui a été très critiqué pour ça. Après, sans juger de la qualité du jeu lui-même, qui a été critiqué pour le fond même de son jeu, c'est-à-dire on lui a dit « j'ai pas envie de jouer un cancéreux, ça va, merci, je joue au jeu de rôle pour m'évader ». Ok, sauf que c'est beaucoup plus profond que ça. Pourquoi les gens vont voir des drames français au cinéma? Pourquoi est-ce que on parle de tel thème? Pourquoi est-ce que le jeu de rôle, lui, devrait se contenter de rêves de puissance et ce genre de choses? Pour moi, c'est le domaine qui est le moins exploré. Après, comme en littérature, on dit que toutes les histoires ont été racontées, en film, toutes les histoires ont été montrées, reste la possibilité d'un point de vue sur un domaine et de pas refaire toujours les mêmes choses. Mais là, c'est un autre sujet.
Comme les running gags sont souvent les meilleurs, je voulais vous dire, si on regarde la couverture du magazine Ravage, actuellement en kiosque, alors Ravage, c'est plutôt de la figurine, mais ça touche aussi des univers qui sont proches de ceux du jeu de rôle. Qu'est-ce qu'on voit? Ah, des zombies. Si je regarde le magazine Dissident, qu'est-ce qu'on voit? Ah, des zombies, etc. On peut le faire comme ça avec beaucoup de jeux actuellement disponibles.
Ouais, mais je suis complètement d'accord avec c'est Vivien, c'est ça. Il y a plein de thèmes qui ont déjà été traités. Après, en termes de système de règles, il y a tout à faire, j'ai envie de dire. Il y a infiniment de trucs extrêmement intéressants à tester. Là, on en est au début. Enfin, je sais pas si pour moi, on en est à la première phase de la théorisation. Ceux qui disent oui, mais c'est que de la théorisation, ça sert à rien. Bah, regardez Dogs in the Vineyard, Sorcerer, enfin. Tous les gens qui sont des grands théoriciens ont aussi écrit des jeux de rôle qui sont extrêmement intéressants, extrêmement novateurs. Et du coup, je pense que en termes d'exploration des thèmes qui ont déjà été abordés, typiquement le Far West, oui, c'était déjà fait, mais jamais dans la façon dont l'a fait Dogs in the Vineyard. C'est extrêmement intéressant. Et du coup, il y aura énormément de choses qui vont sortir, pas forcément dans des thèmes nouveaux, mais dans des nouvelles façons de traiter les thèmes avec des systèmes qui permettent de traiter les thèmes de manière efficace.
Alors moi je vais me lever un peu en faux contre, enfin bref, je suis pas vraiment d'accord avec vous deux. Voilà, jouer l'intimité, enfin mettre l'intimité comme au centre d'un jeu ou au concert ou la parentalité ou peu importe. Voilà, c'est, enfin ça, je moi, ça m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, à titre personnel, je le fais dans mes jeux. Enfin, je le fais dans mes parties. Je traite du suicide, je traite du deuil, de la parentalité, de plein de choses. Enfin, avec les personnages qui sont autour de la table, en fonction de ce que les joueurs ont envie de jouer et comment. Mais tout ça en jouant à Warhammer, en jouant à Cyberpunk, en jouant, enfin, j'ai pas super l'impression. Enfin, j'ai pas envie de jouer à des jeux fermés, ce que moi je considère comme des jeux fermés, qui racontent un truc et qui racontent que ça. Jouer à Dogs in the Vineyard m'intéresse pas plus que ça, pour plein de raisons, mais aussi parce que la structure narrative du jeu, enfin la structure autour de la table, de la manière dont la partie se passe, parce que j'ai lu le jeu, hein, je sais pas, même si j'ai pas joué, j'ai quand même lu le truc. Voilà, moi, à titre personnel, ça branche pas super mes joueurs, non plus, il faut le dire. Après, quand on parle de systèmes de jeu, etc. Moi, je me faisais la réflexion tout à l'heure sur le visite de Fertile, que bon, le corpus qui était présenté était très réduit et voilà, c'était un corpus forgien essentiellement. Et je me faisais la réflexion que
Fiasco, c'est pas un jeu forgien. Pas du tout.
Ouais, mais c'est pas
un bon, critique.
On pourra en parler, mais Fiasco, c'est pareil. Moi, j'ai lu le truc et j'ai pas envie d'y jouer, quoi. C'est pas un jeu qui m'intéresse. Jouer des losers qui vont, c'est pas sexy, quoi. Par contre, le faire sur une partie de Warhammer et faire en sorte que les joueurs se plantent à mort et prennent toutes les mauvaises options et tous les mauvais choix, ça c'est drôle. Avoir un jeu qui tourne uniquement autour de ça, c'est pas drôle. Enfin, c'est pas, voilà, enfin, à moi, quoi. Mais je me faisais la réflexion que voilà le fondamentalement le vide fertile il est là depuis le premier jeu en 74. Il était dans le premier jeu et c'est pour ça que le jeu de rôle a existé et qu'il a continué et que le jeu s'est pas vautré et a pas fait enfin et a trouvé son public, c'est parce que en réalité il était déjà dans les règles où tu crées un personnage, tu affrontes une adversité. Enfin, tu évalues ton personnage face à une adversité, tu gagnes de l'expérience, tu réévalues ton personnage face à une autre adversité plus forte, tu regagnes de l'expérience, et le vide fertile, tout ça. Et donc, tu avais un cercle vertueux, parce qu'en réalité, c'est un principe de cercle vertueux. Et au centre, le vide fertile, c'était comment, en creux, donner une idée de l'héroïsme ou en tout cas une idée du voyage du héros aux joueurs. Et c'était séminal, enfin c'est séminal au jeu de rôle, ce truc là et en réalité, si tu observes bien la plupart des systèmes de jeu, enfin je pense cette histoire de cercle vertueux qui existe c'est la marque de fabrique de tous les jeux qui ont duré et qui ont bien marché. C'est-à-dire que tous ceux dont le système de jeu à un moment donné t'envoie dans le mur parce qu'il y a une force centrifuge qui t'éjecte de cette boucle vertueuse, centripète.
Ouais, genre on hésite toujours à le dire.
Centripète. et en fait, les jeux qui fonctionnent bien, c'est des jeux qui effectivement ont ce cercle vertueux qui par le système et par un enchaînement d'adversité, récompense, tension, etc., finit par créer quelque chose qui se nourrit lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui est, enfin, de mon point de vue, qui est dans tous les jeux, et, enfin, qui est dans tous les, ce qu'on pourrait dire, les bons jeux, y compris dans les jeux mainstream et tout ça, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que je suis beaucoup moins sensible à cette question des nouvelles thématiques, qu'on ose autour d'une table aborder des choses plus adultes, plus compliquées, etc. Ouais, mais la question des nouvelles thématiques, elle est casse-gueule pour moi, quoi, à ce niveau-là.
Juste pour moi, ça revient encore. On est encore dans la même situation que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quelque chose en plus. Ça n'enlève pas la possibilité de jouer comme je le fais aussi moi régulièrement, la possibilité donc d'aborder ces thèmes-là par Warhammer, par autre chose. Après, il y a des gens qui pourraient dire, ouais, mais gagner des niveaux, moi, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est plutôt vivre du drame. Et là, pour le coup, c'est la possibilité de leur offrir aussi des jeux. Et l'autre aspect qui me paraît intéressant, c'est que ces jeux, en se centrant sur un thème, permettent de les aborder sous plusieurs angles, plusieurs parties différentes. Alors après, effectivement, c'est un autre paradigme, c'est-à-dire que c'est plus un personnage qu'on va suivre forcément sur plusieurs parties, ça peut être plusieurs fois, on fait des nouveaux personnages et on re-explore la chose, mais sous un angle différent. Après, effectivement, voilà, quoi, c'est juste quelque chose en plus, je pense, et qui permet d'explorer un thème autrement, quoi.
Ouais, alors, moi, pour répondre à ta question, je vais parler de comment je vis mon métier, en fait, parce que c'est vraiment intimement lié, c'est pas seulement une opinion, c'est-à-dire que ce que je pourrais être amené à vous dire, c'est ce que je fais, donc je vais vous parler de ce que je fais, c'est vraiment facile. Souvent quand on parle de l'éditeur, on a l'impression que c'est juste quelqu'un qui fabrique des produits et qui les vend, en fait. Quand on les fait, c'est beaucoup plus. Enfin, c'est vrai qu'il fait ça, mais il fait pas que ça. En fait, il construit aussi, il participe à la construction d'une mémoire, d'un média. Il administre le patrimoine, c'est-à-dire qu'il est aussi l'auteur. Il lui confie pas seulement la mise en forme, il lui confie aussi le fait que pendant les prochaines 70 ans, cette personne va s'assurer que ses droits sont respectés, que sa volonté est respectée, et qu'il va rencontrer le public qu'il a envie d'avoir. Et aujourd'hui, on parle souvent du fait qu'il y a différentes attentes chez les joueurs, c'est-à-dire, nous on veut jouer l'Heroic Fantasy, ou nous on veut jouer des campagnes, Mais en fait, avant qu'il y ait ces attentes-là, du côté de la demande, en fait, du côté de l'offre, les auteurs aussi, ils ont des envies. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez peu abordé, mais dans les gens qui publient du jeu de rôle, il y a des gens qui se pensent effectivement comme des game designers. C'est-à-dire que ce qu'ils ont envie de faire, c'est de transmettre une sensation, de faire naître une émotion, en fait. Ils sont conscients que, je fais référence à une partie de la définition que donnait toi, Mie, hier, c'est-à-dire l'espace sensible pour ce qui est l'art. Et effectivement, il y a des gens qui sont inscrits là-dedans et ils ont envie de proposer quelque chose qui va susciter l'émotion. Donc là, on peut avoir une galerie de des jeux, en fait, qui travaillent là-dessus. Et effectivement, l'univers, et je parle bien d'univers et pas de monde, c'est-à-dire le contexte, en fait, ça va effectivement être l'émotion. Il y a des auteurs de jeux de rôle qui, eux, inventent des mondes, et ils se pensent comme des architectes ou des démiurges. Et en fait, ils sont pas convaincus qu'il n'y ait pas de rupture entre les règles et le background, ils le vivent pas comme ça, ils ont envie de nous emmener en voyage, et finalement, ça les intéresse assez peu. C'est-à-dire que ce qu'ils ont envie, c'est de partager les rêves qu'ils ont, et ces rêves, ils sont un peu figuratifs, donc finalement, que vous jetiez des 20, des 100, pour eux, c'est pas très très important. Et vraiment, ça existe, donc c'est pour ça que, moi, j'ai une collection où il y a des gens qui s'y inscrivent parce que ils sont très contents de trouver un système tout fait, et ce qu'ils veulent, c'est présenter une création. Et souvent, d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que ces auteurs-là, très vite, ils vont se détacher peut-être du jeu, souvent, et ils vont parce qu'ils ont aussi une autre force d'écriture qui fait que ils ont peut-être pas encore le courage ou suffisamment de confiance en eux pour attaquer un autre média avec une qui serait plus, qui serait moins ludique ou même pas du tout ludique, et ils font leurs armes, en fait, dans le jeu de rôle. Et ils apprennent à travailler leur écriture, parce que
qui sera un peu moins intime, qui sera moins.
C'est pas forcément moins intime, c'est que je pense qu'ils ont une relation à la fiction qui vient par le jeu de rôle. C'est-à-dire qu'ils, peut-être qu'ils ont passé plus de temps à jouer avec des amis qu'à lire, et en même temps ils ont envie d'écrire. Donc ça leur paraît plus naturel d'écrire du jeu de rôle. Et puis ils vont finir par s'apercevoir que cette démarche-là, c'était l'étincelle. Et puis vous allez les retrouver. Et aujourd'hui, il y en a aujourd'hui. Enfin, on en connaît tous. Je vais pas donner des noms là pour parce que j'ai peur de l'oublier, donc de faire du tort à quelques-uns. Mais vous avez un certain nombre d'écrivains, y compris de littérature générale, qui sont des rôlistes, et qui ont publié sous leur nom des jeux de rôle. Et puis vous avez vraiment ce que j'appellerais l'auteur de jeux de rôle accompli, c'est-à-dire que la personne qui effectivement que le sujet soit intime ou non se dit moi j'ai un propos, alors qu'il peut être totalement entertainment, c'est-à-dire mon propos c'est la violence des combats de gladiateurs, et qui va décrire un univers qui est les arènes de gladiateurs, ce qui se passe dans les coulisses, la traite des esclaves, le fait qu'on va aller chercher les mecs dans des pays étrangers parce que en fait c'est des brutes, et qu'on entretient aussi une mythologie du colonialisme, enfin voilà, il va me parler de ça. Et puis il y a un système de combat robuste, parce que quand même le but du jeu c'est de se mettre des tarnioles, quoi, et il faut que ça marche, quoi. Où ça peut être, d'adapter une œuvre littéraire et d'essayer de la faire redécouvrir ou de la faire découvrir selon sa perception. Je prends un exemple qui va parler à tout le monde, parce qu'il y a une adaptation cinématographique qui a pu faire débat, mais qui en même temps est là et qui a le mérite d'exister. Tout le monde connaît Tolkien, tout le monde connaît Seigneur des Anneaux, beaucoup de gens ont vu le film. Il y a eu différents jeux qui ont adapté Tolkien, et le moins qu'on puisse dire, c'est que on n'avait pas les mêmes sensations de jeu. Donc, ce qui veut bien dire qu'il y a bien un travail, le travail d'adaptation, ça existe. Donc, je pense que ce qu'il faut déjà clairement identifier, c'est qu'est-ce que vous attendez du jeu de rôle. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt qu'est-ce que vous attendez. C'est pas seulement forcément un univers ou une ambiance. C'est même déjà aussi par rapport à la table où vous êtes. Et je pense que souvent la clé pour trouver son jeu de rôle, c'est de regarder le catalogue d'un éditeur, pas seulement à l'aune de son goût personnel, mais d'avoir eu une première discussion avec les autres, se dire ok, mais enfin, à quoi on va jouer ensemble en fait. Et de se demander, c'est qu'est-ce qu'on cherche? Et surtout, ne pas s'arrêter à se dire, est-ce qu'on veut jouer ensemble à de l'heroic fantasy ou de la science-fiction? Non, est-ce qu'on veut jouer ensemble un jeu de rôle dans lequel on va développer des personnages? Est-ce que c'est ça la priorité? Est-ce que ce qu'on veut, c'est développer la dramaturgie? Est-ce que ce qu'on veut en priorité, c'est participer à l'élaboration d'un monde, quitte à ce que ça soit notre monde, et pas du tout la proposition initiale? Et on va se réinscrire dans une démarche où très vite, on va se détacher une éventuelle collection, si cet univers suffisamment fort et qu'il a eu une gamme. Voilà, je pense que s'il doit y avoir une étape suivante de maturité dans le jeu de rôle, c'est de regarder tous les critères qui nous font jouer et de se tourner dans sa pratique vers des éditeurs ou des segments de catalogue d'offres, d'auteurs qui nous correspondent, et pas seulement de regarder si c'est quel type de dé et si c'est de fantasy ou pas.
Alors, je vais prendre un peu de risque là. Ce que tu viens de décrire, en gros, c'est la proposition du LNS. C'est d'abord réfléchir vraiment à qu'est-ce qu'on cherche dans le jeu de rôle. pour pouvoir choisir mieux le jeu de rôle, mais c'est assez compliqué parce que en fait même les jeux de rôle, les auteurs sont pas forcément conscients de la de cette proposition là, ils l'expriment pas forcément clairement au début du jeu. Et juste pour rebondir sur ce que disait le Grimf, je suis assez d'accord avec toi que en vrai dans la plupart des systèmes de règles, tu peux traiter la plupart des questions, tu peux traiter la question de la parentalité dans Warhammer. La question que va poser la Forge est peut-être un peu Fabien. Enfin, j'en suis pas sûr, hein, mais c'est là où je m'avance beaucoup sur ce que tu penserais. C'est peut-être qu'il y a des systèmes qui sont plus adaptés pour traiter certaines questions que d'autres et qui vont faciliter certaines questions auprès d'un groupe. Et si un groupe veut effectivement traiter ce type de questions-là, ils ont plutôt tendance à utiliser certaines mécaniques. Et typiquement, si tu veux traiter des choix moraux, peut-être que Dogs in the Vineyard est plus adapté que le D6 ou quoi que ce soit. Peut-être qu'effectivement, avoir un couteau suisse, c'est super pratique parce que tu peux tout faire. Et c'est vraiment hyper intéressant de tout pouvoir faire sur une campagne. Ça permet de faire des trucs extrêmement intéressants, notamment sur des campagnes à long terme. Mais en même temps, de temps en temps, t'as juste une grosse bûche à couper. Et là, c'est bien d'avoir une scie sauteuse, une tronçonneuse, parce que ça va t'aider. Après, ça, c'est juste une vision que j'ai pour l'instant. Et je sais pas du tout sûr que Fabien m'appuiera ou pas. Ou...
Je vais te répondre. Je te réponds très, très, très vite. Quand t'as un groupe de jeu qui n'a pas envie de jouer les conflits moraux et tout ça, tu vas pas leur proposer Dogs and Vineyard. Tu leur proposes un Warhammer. Et tu prends le Warhammer, et dans Warhammer, tu mets des conflits moraux. Et là, les joueurs, ils y vont parce qu'ils jouent à Warhammer. Et ils se posent pas la question et ils répondent aux conflits moraux et ils se disent, merde, ouais, je fais ci, je fais ça. Et tout d'un coup, il y a une discussion autour de la table et tout d'un coup, il y a des choix de fait et des choix décisifs et des choix signifiants et ça, tu l'as obtenu, mais c'est pas une question de. Enfin, je pense que c'est une question de maturité. C'est une question de, à un moment donné, d'avoir envie de le faire et puis d'amener à le faire. Voilà. Et le problème des jeux trop fermés, j'ai l'impression. Enfin, moi, c'est mon problème à moi, c'est que ça me donne pas envie d'y jouer. En fait. Par contre, si dans un jeu plus large, on m'amène dans une situation où, eh ben, j'embrasse la situation et on y va, quoi.
Alors comment je crois que la conclusion, c'est qu'en fait, vous avez beaucoup envie de poser des questions et de parler.
Voilà, comme on
et que la table a exprimé que c'est aussi à vous dire comment est-ce qu'on rêve le jour de demain. Ben, non.
Alors, comment procède-t-on?
Il va falloir vous mettre en ligne.
Par contre. Est-ce que,
désolé, on a oublié le bouquet de fleurs.
Pour que tout le monde puisse poser sa question, est-ce qu'on peut se tenir à des questions qui soient voilà, de l'ordre de 30 secondes, 1 minute?
Ok, oui, promis. Mais je peux parler quand même à droite
et à gauche,
parce que j'ai l'impression que tu étais quand même un peu l'accent. Enfin, bon, Grumf, le vif fertile, tout à l'heure, j'utilisais l'exemple de ADD, donc ne dis pas que. Enfin, viens pas me dire que le vif fertile est déjà présent dans ADD comme contre-argument, parce que c'est exactement ce que j'ai dit. Je suis bien d'accord que. Donjons et Dragons, c'est fondé sur un initiative, c'est pour ça que ça m'intéresse. Bon, maintenant, il n'y a pas que tous les jeux, enfin, à mon avis, Vampire n'est pas du tout ça. Juste pour. Tant pis pour les Kickstarter, mais effectivement, Kickstarter, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des petits trucs, genre Planète Tournante, Psyrun, et.
Mais ce que j'ai peur, c'est que gros, en fait.
Et aussi le Polaris VF, donc, ouais. Le Kickstarter, le gros Kickstarter.
Je ne dis pas que ça arrive.
Juste pour terminer sur un truc. Le truc fertile, ça n'a rien à voir avec indie tradit, mais rien à voir dans les deux cas où les jeux fermés, ouverts, ça ne relève pas du tout de ça. Il faut avoir le jeu le plus tradit du monde avec un vrai vide fertile, c'est pas ça. Et l'autre truc, qui est une question que j'ai fait depuis longtemps, mais que j'aimerais quand même sortir à l'occasion de ce débat, qui est que pour moi, Warhammer ou Toulouse, c'est aussi des jeux fermés. C'est-à-dire que la proposition dans Toulouse, elle est quand même très très précise.
Oui,
la différence, et là je suis d'accord, c'est que dans Toulouse, dans Warhammer, le meneur de jeu a une prise beaucoup plus grande sur ce qu'il va faire jouer. C'est-à-dire qu'il devient vraiment auteur. Un des choix des jeux à la The Forge, enfin bon, je ne sais pas trop. On n'a jamais vraiment su comment les nommer. Mais on voit tout ce que c'est de dire, pour que l'expérience soit beaucoup plus intense, et aussi pour libérer la liberté pour les joueurs, ça c'est un truc qu'on oublie souvent, c'est qu'on va construire un système de jeu autrement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, disait sur la différence entre un couteau suisse et une scie électrique. Ça ne fait pas la même chose. Maintenant, parfois, je peux comprendre tout à fait que la distinction que Sébastien faisait et ce que tu défendais comme position, me semble-t-il, qui est de dire, ben voilà, moi, comme MJ, j'ai envie d'être en grande partie auteur, j'ai envie de pouvoir être modulable, j'ai envie de pouvoir explorer un monde. Mais évidemment, ce n'est pas ma position. Mais tout ceci n'a rien à voir avec le dispersif.
Alors, une question maintenant.
Moi, je, derrière un moment où se demander ce qui a pas été exploré, ce qui reste, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on a fait, ce qu'on... pour moi, c'est... elle n'existe pas cette logique. Parce que dans le monde, il y a deux types de personnes. Il y a l'artiste, le mec qui a sa cheville. Tu peux l'envoyer au goulag, hein, il va continuer à faire du jeu de rôle. Et là, le deuxième type de personne, c'est le capitaliste. Lui, il veut faire du pognon, et donc il va faire une étude de marché, il va demander aux gens ce qu'ils veulent, et il va faire un produit avec l'espoir de faire du fric. Et ces deux mecs-là, ils vont continuer à nous faire du jeu de rôle.
Donc là, t'es en train de dire que si on veut pas faire du jeu de rôle au goulag...
Eux, ils vont continuer à en faire des jeux de rôle. Parce que leur motivation, elle est forte, et quelqu'un pas forcément jeu de rôle, il y a une démarche artistique, l'autre, il est là parce qu'il veut...
D'accord. Et quelle est ta question?
C'était pas une idée. Voilà. Est-ce que vous, moi, parce que le débat, il avait l'air très centré sur votre perception. Ouais, alors qu'est-ce qu'on a pas fait? Et moi, je dis, ouais, c'est intéressant, mais peu importe, parce que des gens qui vont créer, moi, je crois pas que la création, elle est prête de s'arrêter, parce qu'il y a deux moteurs forts à la création. L'artiste ne peut pas s'empêcher de créer, je veux dire, c'est impossible pour lui.
Oui, mais qu'est-ce qu'on va créer?
Qu'est-ce
qui a l'air d'être intéressant à créer? Où est-ce qu'on va chercher?
Et peut-être des choses qui vont nous arranger. Enfin, nous,
consommateurs.
Donc voilà, peut-être que parce que ma posture, elle est polémique. Peut-être que c'est pas une question, peut-être que ça peut vous faire.
C'est pas une question.
Je sais pas.
Moi, j'ai plutôt une réaction d'abord sur la première partie de ton intervention. Je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il y aura toujours des artistes et que l'artiste, tu le mets où tu veux. De toute façon, sa vocation, c'est d'inventer, de créer, de partager sa création. Donc lui, au fond du goulag, il continuera à raconter des histoires aux autres prisonniers et à leur permettre de tenir, en fait, parce qu'il, voilà, il a ça en lui. Après, je ne sais pas s'il y a deux catégories de personnes. En fait, je pense que ce qui se passe en ce moment, et c'est ce qui fait aussi qu'en voulant traiter dans le colloque la question du jeu de rôle à présent, on s'éternise, on s'appesantit même malgré nous sur cette question du financement participatif, c'est qu'on est étonné par certains résultats et que notamment, quand on a souscrit, on se rend bien compte que passer une certaine somme d'argent, il y a effectivement une masse supplémentaire et que la question, c'est où va l'argent, en fait. Et que cette question-là, elle est sérieusement posée. Donc, mais elle est posée pour tout financement participatif qui vont au-delà. C'est-à-dire que si jamais je me mets sur une plateforme et que je dis « j'ai besoin de 10 000 euros, mais c'est vrai que si j'en avais 15, je ferais ci, si j'en avais 20, je ferais ça, si j'en avais 30, je ferais ça, et qu'in fine, j'en fais 150 », on peut assez légitimement se poser la question de savoir ce que sont devenus les 120 000 autres. Mais enfin voilà, c'est pas propre au jeu de rôle ni à la création en fait. Enfin, c'est, je pense que ce qui, là, c'est pour clore sur ce sujet-là parce que je pense que c'est important aussi qu'on parle d'autre chose. Parce que je pense que, et c'est pour ça que moi, je parlais de la représentation de qu'est-ce que ça a provoqué d'un point de vue politique en fait. Que c'est vraiment ça la question. Elle n'est pas propre au jeu de rôle en fait. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut pas s'apesantir là-dessus.
Alors, question suivante.
Une vraie question. 30 secondes. Je reste sur le financement participatif. On a parlé des publics. Quid de la presse et notamment de la critique de jeux de rôle pour des jeux qui ont déjà été massivement achetés avant d'être édités. À quel moment le critique a-t-il encore sa place dans la prescription du jeu? Et par ailleurs, on soulignait, et ça a été abordé en tout cas, le risque d'isolement de la communauté via le financement participatif. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de fragmentation, c'est-à-dire d'une perte de curiosité? Alors certes, les critiques serveurs, mais une perte de curiosité, justement, du fait de la pérennité de cette grosse gamme qui vont se certifier.
Alors, en ce qui concerne Dissident, Dissident ne fait pas de critiques ou alors
des critiques de jeux qui sont qui existent depuis déjà depuis longtemps. Le Fix en fait, par contre, hein, la newsletter de Dissident, le Fix en fait, c'est des critiques purement gratuites puisque vous pouvez les recevoir gratuitement dans votre boîte aux lettres.
Alors là, sur la question presse, je prends ma casquette Jeux de Rôle Magazine cette fois, j'enlève ma casquette Douze Singes éditeur, ma casquette rédacteur en chef pour un concurrent des Douze Singes, en plus, décidément, le monde est petit. Non, honnêtement, je pense que il y a un vrai problème sur la critique de jeux en général, en fait. Ce problème existe depuis longtemps, il est antérieur, en fait, au financement participatif. Il est plutôt lié au fait d'être sur une activité qui est atrophiée, en termes de marché, c'est en termes de dimension des activités. C'est-à-dire que, moi, j'ai toujours été un très grand lecteur de presse. Ma journée commence par une revue de presse. J'ai toujours fait ça, même si j'ai pas un métier qui fait que je suis pas leader d'opinion, etc., mais ça m'intéresse. Et je vois une nette différence quand je lis une critique sur un autre média et une critique dans le milieu du jeu de rôle, y compris quand c'est moi qui la publie en tant que rédacteur en chef d'un magazine. Parce que j'ai pas les moyens, en fait, de salarier quelqu'un qui a fait une école de journalisme et qui va être suffisamment habile pour porter une critique digne, en fait, aussi digne qu'elle peut l'être dans d'autres médias. Pour autant, ça ne veut pas dire que toutes les critiques qui sont publiées relèvent du copinage ou de l'incompétence. Je pense qu'il faut s'apercevoir que certains produits ne sont pas critiqués. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont bons. C'est tout. En fait, c'est comme ça que ça se matérialise. Attendez, il y a autre chose. Parce que là, je sens que je sais au moment où je parle, si c'est en direct, ma messagerie aurait sauté. Non, il y a aussi un autre truc, c'est que les rôlistes, ils ont un loisir où ils communiquent, ils sont autour d'une table, ils se parlent, etc. Et en fait, force est de constater, moi, c'est ce que j'ai découvert en passant de l'autre côté de la barrière, du côté presse, c'est que les éditeurs de jeux de rôle, ils ont énormément de mal à communiquer. C'est-à-dire que ils savent parler de leur passion sur les réseaux sociaux, ils savent en discuter entre eux, comme aujourd'hui, ou avec vous, mais quand il s'agit vraiment d'être dans l'acte de communication, c'est-à-dire au sens qu'on entend dans le contexte économique et social, c'est-à-dire de se dire, voilà, je vais faire savoir aux autres acteurs de la chaîne à laquelle j'appartiens, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais. Grosso modo, on reçoit l'image de la couverture, parfois le texte de la quatrième de couverture, et part du principe que, effectivement, on a la science infuse, on sait tout sur tout, et que sur une simple lecture, en quelques heures, on va tout décortiquer. Il y a plutôt une faiblesse de ce côté-là, en fait, quand on est dans la passe.
Après, faut aussi se demander à quel point les gens ont les outils pour juger un jeu. Enfin, il y a énormément d'attentes différentes qui commencent à peine à être cataloguées. Juger un jeu, c'est extrêmement difficile parce qu'on sait pas trop ce que les joueurs en attendent. Et de toute façon, pour moi, la seule bonne façon de voir si un jeu est bien, c'est d'aller voir sur le grog et de regarder toutes les critiques, non? Ouais, mais ça coûte super cher. Et moi, tu vois, en tant que pauvre salarié de la fonction publique, avec une femme à charge, tout ça.
Non, mais attendez, après, une chose, c'est les gens qui dirigent les magazines, que ce soit Jeux de Rôle Magazine ou Casus Belli, quand ils décident de publier un papier long, c'est qu'en fait, il a été joué. Sinon, c'est de l'imposture, quoi. Donc, après, c'est... Des fois plus facile de se rendre compte parce que il y en a qui vont dire avec mes joueurs ou qui vont donner la parole à un de leurs joueurs. Mais voilà. Après, c'est vrai que nous on a fait le choix, y compris de critiquer des jeux anciens mais qui sont toujours en vente, parce que je sais aussi que le propre même du jeu de rôle, c'est que les personnages vont prendre de la bouteille, ils vont se développer. Et il y a une chose qui est absente en fait du paysage et qui c'est antérieur au financement participatif encore une fois, c'est que la critique elle est souvent quand ça sort et finalement c'est une opinion sur le produit et ce qu'on perçoit en prime abord même une ou deux parties du système et de l'univers, alors qu'en fait ce qui est à l'intérieur du jeu c'est bien plus que ça en fait. Et je pense que c'est ce qui manque sans doute, enfin c'est nous ce qu'on va essayer de faire, c'est de revenir un an après, deux ans après, trois ans après, quitte à ce que nos lecteurs vont découvrir plusieurs fois la même critique du même jeu qui va durer, parce que, je ferai un parallèle simple avec un jeu que tout le monde connaît, je crois pas qu'on puisse porter la même opinion sur un jeu de rôle d'Heroic Fantasy à niveau, quand on l'a testé au niveau 1, au niveau 5, au niveau 10, au niveau 15, et je pense même qu'il y a des choses à dire sur qu'est-ce qui se passe au niveau 7, dans les différentes éditions d'un jeu d'Heroic Fantasy où il y a des portes, des monstres et des trésors. Et c'est ce regard-là qui est, à mon avis, qui est nécessaire, parce que ça manque même aux auteurs et aux éditeurs d'avoir ce retour-là, en fait. Alors, peut-être, et j'en reviens à la question telle que tu l'as formulée, que là, le financement participatif va être une force. Ou plus exactement, que le financement participatif va s'exposer à cela. Parce que je crois que quand ceux qui ont eu recours au financement participatif pour créer un jeu la première fois, ou pour créer la énième édition, qui se justifie parce que, il y a une chose aussi qui est vraie par rapport au revival actuel, c'est qu'on réacquiert des jeux qui bénéficient d'une technologie, d'une PAO, d'un enrichissement graphique avec d'autres techniques qu'il n'y avait pas. C'est-à-dire que si vous avez acheté la deuxième édition de l'Appel de Cthulhu, donc la première en France, et que vous avez la V3, la V4, la V5, la V6, bientôt la V7, vous voyez une différence, et effectivement, il y a toujours de la santé mentale, il y a toujours de la force, de la constite, bon, voilà. Avec les plateformes de financement participatif, quand un éditeur va revenir pour la énième fois, pour la énième édition du même jeu, compte tenu qu'il y a aussi une dynamique réseautage social, je pense que là, il va s'exposer pour la première fois à des vraies critiques sur la durée de vie, en fait, du produit. Et là, il va y avoir des questions qui vont se poser, il y a des exigences qui vont être formalisées. Et là, on a vu en quelques mois, le financement participatif, il est passé d'un objet de financement à un outil de marketing opérationnel de type plan média. Et je pense que il va connaître un autre visage parce que les contributeurs passés et les contributeurs à venir vont passer commande maintenant. C'est-à-dire qu'ils vont pas se contenter de dire, ah oui, vous nous proposez tel palier, il y a tel truc. Non, ils vont dire, OK, vous êtes bien gentils, mais la première fois, vous nous aviez dit que si on passait tel palier, les images en speed painting, elles seraient poussées. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Ils diront, vous nous aviez promis, en fait, que vous feriez un effort sur la traduction et par paresse, peut-être, ou par facilité, ou pour des tas de raisons sur lesquelles vous ne communiquez pas, vous avez maintenu les erreurs de traduction. Et je pense que ça va changer le rapport, en fait, entre les acheteurs et les éditeurs, mais pas forcément entre les joueurs et les auteurs, parce que c'est vraiment deux choses différentes.
Question suivante, oui.
Je vais refaire une remarque sur le financement participatif.
Ah bah, c'est bon.
Est-ce qu'il y en a encore d'autres qui veulent poser des questions sur le financement participatif? Combien? Financement participatif, une encore après? D'accord.
Alors, c'est pas pour lancer le débat. Rentrer avec l'édition, la traduction va passer sur le Lul, et eux ont capé le nombre de souscripteurs pour éviter d'avoir un surplus d'argent, combien? 1200.
Ils prennent pas de risque.
Un capé à 3 millions. Je sais pas comment on sera comprendre, mais au moins, ça évite sur le côté, on va peut-être pas avoir trop d'argent. Par rapport aux jeux de rôle plus indie, enfin les récents, c'est des jeux qui vont plus proposer une mécanique pour vivre un type de partie précise, parce que c'est un peu encore à montrer, et qui vont pas vous lancer dans des campagnes. C'est compliqué, je pense, de faire des campagnes de fiscaux, parce que je pense qu'on démarre avec des jeux.
Une campagne de Mustang, ça marche pas.
Vous enrichir en tant que rôliste. Et après les intégrer aux jeux qui tiennent sur nos campagnes ou ce genre de choses. Je le perçois plus comme un bonus à récupérer.
Ouais, effectivement, pour avoir fait ça avec des joueurs, faire jouer tes joueurs qui n'arrivent pas à être proactifs, à pas arriver à prendre le lead, qui sont un peu coincés, tu les fais jouer 3 fois boule de neige. Ben voilà, ça va mieux après. Dès que tu leur fais du gros jeu indépendant où ils ont pas le choix, là, s'ils disent rien, il va y avoir un gros blanc à la table. Ben, ça permet de leur faire découvrir d'autres aspects du jeu de rôle et effectivement, ça va venir vachement enrichir ta campagne qui est à côté. Il y a plein de façons de faire ça. Tu peux aussi faire ça avec des mini-scénarios différents que tu vas insérer dans ta campagne, dans le même univers, mais par exemple avec des personnages différents. C'est super intéressant aussi. Typiquement, si t'es sur une campagne de, moi j'étais sur une campagne de loup-garou, pourquoi pas faire un boule de neige qui retrace une partie de l'histoire de mon univers de garou. Ça force les joueurs à explorer une partie de l'univers, à le créer, et en même temps, on reste dans l'univers. Ça peut être extrêmement intéressant, et ça va leur apprendre d'autres techniques de jeu qui vont pouvoir enrichir la campagne. Donc oui, c'est vraiment exactement ça, c'est apprendre d'autres méthodes, d'autres techniques, et découvrir d'autres façons de jouer.
Oui, par rapport à ta première remarque, je crois pas que le problème, c'est soit qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais plus d'argent que ce qu'ils avaient espéré. J'ai envie de dire, tant mieux pour eux, ça veut dire que leur activité va devenir pérenne. Moi, ce que je dis, c'est que je pense qu'il y a un problème, et c'est ce que je comprends par rapport au fait que la question est épineuse et qu'elle revient souvent. Elle revient souvent aujourd'hui, mais elle revient où qu'on aille, en fait. Et en ce moment, même si on va nulle part, on allume n'importe quel réseautage social et la question est présente. Donc, non, ce que je dis, c'est que je crois qu'il y a un défaut de communication et d'explication. Il y a un manque de sens derrière l'excédent. Après, c'est les activités commerciales, il est normal dans le contexte dans lequel nous évoluons, qui est l'économie de marché. Après, c'est un débat de savoir s'il faut le changer. Enfin, moi, je pense qu'il faut le réguler, c'est mon opinion, mais bon, voilà. Ce qui est pas normal, c'est qu'il n'y ait pas une explication, qu'il n'y ait pas de sens donné, en fait. Et je pense que c'est pas normal parce que je vois, partout où je vais, que ça pose des questions et que la question est épineuse. Ah, c'est un peu loin que ça, je pense.
Alors, on peut prendre encore 5 minutes, peut-être. 5 minutes, oui. Donc, toute dernière question, rapide, sur le financement participatif, et après, on aborde un autre point.
Non, le capital, c'est pour réguler le marché.
Après, j'aurais juste une question concernant le financement. Entre un projet que vous auriez passé par soit une banque ou quelque chose comme ça, et par le financement participatif, est-ce que vous avez les mêmes... Est-ce que vous conceptualisez le projet de la même manière? Par exemple, ce que je veux dire, c'est que par exemple, dans pas mal de projets dont vous participez, on donne l'argent et puis après, c'est bon, bah voilà, et puis là, c'est repoussé à juin, c'est repoussé à février de l'an prochain. Effectivement, mais il y a ça. On donne aussi, mais après, c'est pas forcément si le projet va être amené, on va dire, à terme, et donc ce qui peut, pour certains,
il y a une certaine frustration qui ne va pas forcément sur un projet fait de manière normale. Est-ce que, évidemment, vous agissez par rapport à ça?
Alors, février
de l'an prochain, ça va peut-être
être
un peu juste, on va mettre plutôt février 2017.
Hein. Non, sinon, j'ai rien. Vas-y, parce que j'ai pas de... Alors, je remets ma casquette de singe, alors. Non, je vais pas être, enfin, de l'édition. Ça, cette fois, pas l'éditeur au sens l'éditeur, mais vraiment le publisher, c'est la dimension entrepreneuriale. Aller regarder sur certains sites web où on peut accéder aux toutes les informations essentielles des comptes des sociétés qui font du jeu de rôle. Vous allez découvrir des chiffres d'affaires et des bilans qui ne relèvent même pas de la TPE. Voilà, donc la banque, nous n'y allons pas, à part lorsque l'on a un site marchand et que, voilà, ça se passe pas comme ça. Je sais pas la vocation de la banque de prêter 3000 euros pour imprimer un livre, alors que n'importe quelle activité économique est censée l'avoir en caisse et pouvoir le produire sans besoin. Enfin, donc ça se passe pas comme ça. La question du financement participatif, elle est venue vraiment plutôt par rapport à ce qu'est la rotation de la trésorerie, en fait. C'est-à-dire pour pas se retrouver à défaut dans un moment où il y a une tension. Mais cette tension, encore une fois, elle est pas propre au jeu de rôle, elle est pas propre au jeu. Il y a des spécificités propres au jeu et d'autres encore propres au jeu de rôle, mais je vous rappelle quand même que nous évoluons dans une zone économique et monétaire qui connaît ce qu'on appelle la crise. Et que, voilà, que tout le monde, enfin, vous, moi, dans n'importe quel acte de consommation, nous faisons davantage attention qu'il y a 4-5 ans, il y a un climat anxiogène, et tout le monde le ressent, en fait. Et c'est ce qui fait que le financement participatif n'est plus seulement l'apanage de quelques-uns qui se lancent, ou de la personne qui a un projet en solitaire et qui se dit, bon, enfin, moi, je suis désolé, mais c'est pour mon boulot, j'ai juste une belle idée, je veux pas risquer mes fonds propres, ça sera un peu bête, alors qu'il suffit que j'ai récupéré 150 clics favorables, et puis ça va se faire. Ce qui fait qu'on est passé de ce type de clients sur financement participatif, enfin, d'usagers, à des éditeurs, c'est vraiment pour des questions de rotation de trésorerie. Et c'est lié à un contexte d'un pays qui va pas bien, tout simplement.
Vous allez prendre la parole. Alors, je mets ma casquette de son collègue. Alors, il y a des histoires qui circulent dans parfois des gens qui mettent un projet, en fait ils ont juste une jacque PDF, pas de matière, qui faisait 90 balles, donc ils font un processing, hop, ils engagent les sous, et là ils ont une boîte de matière, et ils comptent leur 350 pages, et banco, voilà, alors nous on va en faire un probablement d'ici quelques mois, et le projet éditorial, chez l'éditeur, enfin, je suis à la fois du frère d'auteur, c'est d'avoir un produit lambda, enfin, le jeu, il soit prêt, c'est un vieux jeu qui a été lancé depuis 10 ans. Donc, il est tout droit, quand même, il faut le poussiérer un peu, donc il sera prêt au moment où on va lancer le crowdfunding. Par contre, les paliers, sachant qu'on ne sait pas si on va les atteindre, et ben, si on rajoute, je ne sais pas, bon, un livret de campagne de 32 pages, on ne va pas écrire un livret de campagne de 32 pages si c'est pour qu'on dise, ah ouais, en fait, on va sortir en 3 ans. Voilà. Donc, c'est ça
la réponse. Alors, question suivante, le micro arrive jusqu'à vous.
Bonjour. Je voudrais réagir à plusieurs points, je vais très très vite. Il y a un point qui a été cité qui m'a beaucoup plu, qui a vraiment été ce que pouvait apporter le jeu de rôle. Je voulais juste parler là-dessus, c'est le jeu de rôle qui m'a donné le goût de l'écriture, le goût de la composition, et qui fait que j'ai eu le métier que j'ai eu aujourd'hui.
C'est... Et alors, tu as réussi à sortir le jeu de rôle?
Je suis passée de Pokémon à des nouvelles et des poèmes, c'est super, super fort. Deuxième chose, c'est que, par rapport à ce que, comment, qu'est-ce qu'on peut apporter encore au jeu de rôle et ce qui est assuré, c'est que mon question est très humaine centrée. On parlait des poids, on parlait de thèmes, mais on parlait que de l'homme. Je ne sais pas si c'est une spécificité, il faudra faire des choses à explorer en dehors de l'humain.
C'est compliqué.
Non, c'est compliqué. La plupart des trucs sont humanisés parce que tu as besoin que la personne s'attache au personnage.
Le troisième point super important, c'est ma grande. J'y ai pensé en même temps que j'ai entendu la réflexion sur Evernote. Est-ce qu'on n'a pas d'autres outils à mettre en avant aujourd'hui comme technologie? Pourquoi on n'a pas, je n'utilise pas ça? Alors, c'est la nostalgie.
Moi, je vais éventuellement juste revenir 3 secondes donc, sur l'idée de, effectivement, comme territoire à explorer, le non-humain. Donc, c'est tout à fait, effectivement, intéressant comme idée, et c'est quelque chose d'assez peu exploré. Donc, il y en a deux dans le coin qui ont cité Sens Néant, effectivement, de Romaric Briand, qui arrive effectivement tout à fait bien à explorer justement l'idée de créatures non humaines qui ont un sens supplémentaire ou différent en tout cas de l'être humain, la capacité de percevoir les émotions, et qui est exploré à travers ensuite la campagne, etc., les thématiques, savoir qu'est-ce que ça implique et comment, et qui implique quelque part, qui induit une façon de jouer légèrement différente de celle dont on a l'habitude, et ça, de ce point de vue ça marche tout à fait. Et donc je suis tout à fait prêt à croire qu'il y a plein d'autres façons d'envisager la chose qui restent à défricher. Après, bon, effectivement, il ne reste plus qu'à avoir des auteurs qui soient à fond dans ce trip-là. Puis voilà. Après, pour les nouveaux supports, moi, j'avoue que, alors, à titre personnel, étant en tant qu'auteur indépendant, j'ai déjà beaucoup de mal à me dire qu'il faudrait que je me forme en maquette, en dessin, etc. Enfin, tellement de capacités qu'il faudrait que j'apprenne pour vraiment pouvoir être indépendant réellement. Je me dis que s'il faut en plus que je rajoute la dimension informatique, ça va être vraiment compliqué. Et l'autre truc, c'est que j'ai l'impression malgré tout que la dimension livresque, en fait, c'est une force parce que je sais pas, ça reste un bel objet quelque part, un jeu de rôle, et ça donne envie. Là où un Evernote, un PDF, ce genre de choses, bah c'est moche. Enfin, c'est vachement pratique, mais c'est moche. Et si on devait faire un truc beau, genre un programme ou un truc, à la limite des sites web, je crois qu'il y en a qui sont développés, mais ça pourrait être amélioré. Mais là aussi, ça demande encore des nouvelles capacités. Ça a été dit hier soir, il me semble que ça se rajoute. C'est des coûts qui se rajoutent et une économie qui est déjà quasi asphyxiée, qui arrive à peine à s'en sortir. Et je suis pas sûr que ça rapporterait tant de... J'en sais rien, peut-être. Hein, après, là, pour le coup, je m'engage pas non plus trop.
Ah, sur le premier point, je trouve, enfin, le jeu de rôle, c'est de la création, donc c'est aussi le reflet d'une époque. C'est-à-dire que si les jeux de rôle sont comme ça, et si ceux qui marchent parmi ceux qui sont comme ça sont ceux-là, c'est qui, ça doit nous renseigner sur qui nous sommes, en fait. Donc après, enfin moi, la première chose qui me vient à l'idée par rapport à votre remarque, c'est effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a une chose qui m'interpelle en tant que auteur, même si c'est longtemps que j'ai pas créé un jeu de zéro, pris par d'autres activités. C'est j'ai l'impression que l'idée que les animaux sont des êtres sensibles est en train de d'émerger en fait. C'est-à-dire que c'est un des sujets qui fait plus vraiment débat. Après, il y a des gens que ça n'arrange pas, mais je pense que même ceux pour qui cette prise de conscience va endiguer ou créer des problèmes dans certaines de leurs activités, je pense peut-être à certains chasseurs, par exemple, ils le nient pas non plus, et ils sont plutôt en train de se dire, ok, donc, enfin, du coup, qu'est-ce que ça veut dire sur notre activité, comment on va évoluer avec ce fait qui est désormais admis. Je pense que si effectivement ce que je ressens est vrai, on va se mettre à considérer les animaux différemment, notre rapport à eux va changer dans la société, ça c'est pas seulement dans quelques activités, et peut-être qu'on va être en capacité d'écrire des jeux de rôle où on pourra interpréter des animaux et pas seulement des change-formes, parce que notre regard va changer, mais le regard collectif va changer. Je pense que ce qui fait que les premiers jeux de rôle, ils parlent d'aventure, de quête héroïque et d'émancipation, parce que finalement, le fait de monter de niveau, c'est de ça dont il s'agit, c'est aussi parce qu'ils s'adressaient à des adolescents. Et que, voilà, le sentiment de toute puissance que ressent tout adolescent, et en même temps qui est lié au fait qu'il se voit progresser parce qu'il est encadré dans cette logique, on le fait changer de niveau de scolarité, on lui donne davantage de liberté, on l'accompagne dans l'émancipation, ça facilite les choses. Ça ne veut pas dire que quand on est plus adolescent, on n'a pas envie de jouer à Donjons et Dragons. Mais je pense que c'est vrai que ça a été si fort d'un point de vue commercial à ce moment-là, c'est parce qu'il était positionné comme ça. C'est pas un hasard si quelques années après, c'est plutôt des jeux d'enquête qui se développent, parce que cette population a vieilli. Et puis, elle perçoit que le monde est plus complexe, et elle comprend que tout le monde ment. Et que donc, ça devient un ressort dramaturgique formidable. Et puis après, on a vu une chose aussi dans le jeu de rôle qui n'a pas été évoquée, tu vois, tu parlais de parentalité. Moi, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que à un moment donné, on a vu arriver des scénarios chez des auteurs qui étaient là depuis quelques années et qui ont perduré, où c'était l'histoire d'un enfant qu'on découvrait ou qui venait de naître et qu'il fallait protéger et escorter. Et quand on regardait qui étaient ces auteurs, ils avaient le même âge, et puis quand on creusait leur biographie, on découvrait qu'ils étaient mariés, qu'ils étaient d'avoir un enfant, et voilà, enfin, ils étaient, ça leur parlait, ils découvraient la parentalité, donc ça imprégnait leur œuvre. Donc oui, je pense qu'il y a des choses à inventer, mais on est le reflet de notre époque.
Alors, pour les plus férus de précision, notons quand même qu'on peut, dans certains jeux de rôle des années 80-90, jouer des animaux avec un certain bonheur. On peut jouer par exemple des dauphins télépathes à Rift, ou des dog packs, c'est des chiens avec des mitrailleuses rotatives dans le dos. On peut aussi jouer des pingouins qui envoient des missiles, ou des loups-garous qui sont des sortes d'animaux, même si ça n'existe pas vraiment.
Je tiens à signaler, pour jouer des animaux, il y a un jeu, alors je ne sais plus si c'est fin des années 70 ou dans les années 80, dans lequel on joue des lapins, mais des lapins, et qu'on n'est pas de lapins, ils doivent être... Voilà. Et donc,
il y a Cats de Wix aussi. Mais pas le Masquerade. Il y en a un autre en anglais, en américain, où tu joues juste des chats.
Dans Cats, tu joues des chats qui parlent et qui échangent, qui communiquent.
Dans Masquerade, oui, mais il y a un autre Cats qui est plus ancien de John Wick où tu joues juste des chats.
D'accord. Je connaissais moi celui avec les lapins. Je voulais revenir juste sur trois éléments qui sont plus des constatations qu'autre chose sur la technologie, sur des choses que j'ai constatées en fait au fil des années. À la fin des années 90, avec un pote en club, on arrivait avec le Ghetto Blaster quoi, sur la table et puis des sacs de bouquins et des sacs de CD pour animer les parties. On rêvait du jour où on pourrait jouer chez nous, parce qu'à l'époque on avait des petits apparts, et où on aurait l'ordinateur et l'écran à côté, donc l'ordinateur quoi, enfin voilà, avec directement les musiques en MP3. Et puis quelques années plus tard arrivent les portables et à des prix démocratiques, donc on s'équipe en portable et donc on arrive en club avec le portable, etc. Et pendant un certain temps, on a tous joué avec nos portables sur la table, parce que les feuilles de perso sous Excel, les PDF disponibles, la musique, les machins. Et donc, 5 joueurs autour de la table, 5 portables, et tout le monde qui regarde son écran, et voilà. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'en réalité, les portables ont disparu de la table. Et même pas forcément remplacés par des tablettes. C'est-à-dire que, en réalité, c'est dans le cadre d'un jeu de rôle, la plupart du temps,
Et c'est un phénomène, enfin c'est pas juste trois joueurs, hein, c'est des phénomènes de club et, donc qui se vérifient sur vraiment pas mal de joueurs. L'aspect technologique, en fait, il est distrayant et assez vite on trouve le moyen de s'en débarrasser parce que mine de rien l'analogique a des avantages. Même moi quand je maîtrise j'ai plus d'ordinateur. À une époque, je prenais encore des notes, mais c'est devenu très compliqué. J'ai redécouvert le bonheur du crayon et du cahier, qui est quand même super pratique. Et c'est super pratique pour une chose, c'est que si tu prends un outil informatique, tu vas être contraint dans ta prise de notes et dans tes choses par l'outil technique et la manière dont l'outil technique dirige tes pensées. En analogique, tu fais des mind maps, tu prends des notes comme tu veux, tu mets tes notes comme tu veux sur la page, tu fais des traits, et en fait, ta feuille de notes représente ton paradigme mental et ta manière de concevoir le monde. Et alors qu'un programme va contraindre ta manière de prendre des notes et va pas te permettre de le faire correctement. Et tant qu'on n'aura pas des programmes vraiment utiles, parce qu'il y a des programmes de mind map, il y a plein de choses comme ça. Alors, mais en réalité, en prise de notes, c'est juste infaisable. Enfin, ça demande une concentration. Et c'est très compliqué d'être à la fois dans l'écoute, la parole, dans la prise de notes, dans la distribution, l'attention, etc. Donc, je pense que pour l'instant, j'ai bien peur, en tout cas, que pour l'instant, l'aspect technologique et l'utilisation des technologies à table se limite plus à des questions logistiques. Donc, c'est effectivement plus pratique d'avoir une petite 7 pouces avec une grosse bibliothèque de PDF dessus que de se trimballer un sac de course rempli de 12 kilos de livres. Et pour le reste, c'est pas pratique pour la musique, pour plein de choses. Mais pour le reste, je pense que l'analogique, le crayon, le carnet, c'est encore ce qu'il y a de mieux et ça restera ce qu'il y a de mieux pendant un certain temps encore.
Alors, on va prendre peut-être une dernière question. Ce sera vraiment la dernière.
Je crois pas. Elle a l'air de dire non.
Vraiment pas. Bon, alors, je vous rappelle que nous avons une rencontre dédicace à Starfield.
La table ronde, c'était comment rêver en fait le jeu de rôle à présent. Franchement, ça a beaucoup basculé sur le crowdfunding, mais disons que pour nous, en fait, qui organisons ce colloque, ce colloque a été vraiment un beau rêve devenu réalité. Donc en fait, nous remercions non seulement les communicants, mais aussi le public qui a été très nombreux. Et on espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à ce colloque.